Bonsoir à tout le monde. Je pense qu'on est en petit comité aujourd'hui, mais on va déjà commencer pour ne pas accuser beaucoup plus de retard. Donc, déjà, merci à tout le monde d'être là, d'avoir fait le déplacement. En plus, aujourd'hui, c'était un jour un peu compliqué avec, je pense, l'actualité politique du jour, mais également parce que c'est un jour de semaine et que c'est une heure qui est assez difficile du coup pour mobiliser les gens. Mais merci d'avoir quand même fait le déplacement pour ce moment de partage et d'échange. Je pense que ça va vraiment pas être un échange conventionnel. Hein. Sentez-vous à l'aise de m'interrompre si vous avez des questions à un moment donné et tout. Ce que je voudrais, c'est vraiment que ce soit un échange assez interactif et enrichissant autant pour vous que pour moi. Déjà, bienvenue à tous dans ce cadre de MadSense. Donc, MadSense, c'est une bibliothèque, comme vous le voyez. Et au-delà d'une bibliothèque, c'est un espace de partage pour tous ceux qui sont amoureux de la littérature, mais également tous ceux qui veulent découvrir. Ils ont des espaces de réflexion, des espaces de travail, mais également un coin, du coup, livre où vous pourrez venir à raison d'un abonnement, du coup, avoir accès à tous ces livres que vous voyez ici et également à d'autres livres, notamment mes recueils et les recueils d'autres auteurs sénégalais, d'autres jeunes auteurs et tout. Dans le cadre de leurs activités, ce qu'ils font, c'est des rencontres entre auteurs et public, on va dire. Ça a lieu, du coup, chaque jeudi du mois. Donc, chaque jeudi, vous pourrez venir ici et rencontrer d'autres personnes avec qui vous pourrez échanger de leur œuvre, découvrir leur œuvre et tout ça. Et donc, aujourd'hui, c'est moi qui suis à l'honneur pour me prêter à cet exercice. Moi, je m'appelle Jerry Azelino. Mais dans le cadre de tout ce qui est écriture, on m'appelle plus Gentleman. Vous l'aurez compris, c'est une contraction entre mon nom et Gentleman. Là, je suis auteur de deux recueils de poèmes. Le premier s'appelle Un peu de nous et est sorti le 21 juin 2020. Et le deuxième aura un an dans quelques semaines plutôt, parce qu'il est sorti le 21 novembre 2021. Voilà. On vient aujourd'hui parler surtout de ce deuxième recueil-là, vous voyez là, et qui sera aussi bientôt disponible à MadSense, qui s'appelle du coup Journey of a Broken Hearted. Je pense qu'en fait, moi, mon histoire avec l'écriture a commencé en 2015. Avant 2015, j'écrivais déjà des bouts de texte parce que j'étais dans un groupe de rap, mais je n'ai pas fait succès dedans, comme vous pouvez le voir. Après, en 2015, j'ai commencé à écrire avec des amis sur un blog commun qu'on avait tous. Et on écrivait des textes qui nous parlaient, qui nous chantaient. Donc, le blog s'appelait Outamou. Après, de Outamou, j'ai écrit également pour le blog d'une autre amie, le monde de Miss Africa, Aurore Monda. Et c'est à partir de ce que je faisais sur son blog que je me suis vraiment dit, on va prendre les choses un peu plus au sérieux, on va écrire beaucoup plus, on va produire des choses. Et le premier texte d'ailleurs que j'ai écrit sur son blog, il est dans le tout premier recueil que j'ai fait un peu de nous. 2015, j'ai commencé à prendre les choses un peu plus au sérieux, à écrire de manière beaucoup plus récurrente et beaucoup plus constante. Et j'avais beaucoup de mal au début parce que je ne savais pas si je voulais écrire des textes, si je voulais écrire des nouvelles. J'étais beaucoup perdu au début. Et à un moment donné, je savais qu'il y avait une chose en tout cas que j'aimais bien dans l'écriture et même dans la lecture de manière générale, c'était les rimes. J'ai cherché le genre littéraire qui se rapprochait plus de ça et qui intégrait plus ça. Et c'était naturellement la poésie. Je pense que ça s'est fait tout seul. Je me suis dit, OK, on va s'essayer à la poésie. Et moi, j'avais un gros problème. Je pense que c'est un problème que presque tout le monde a eu. C'est qu'au début, la poésie, on l'a connue et c'était vraiment très lourd à l'école. C'était des alexandrins, c'était des quatrains. Et c'était vraiment quelque chose de trop technique. Et moi, j'avais du mal avec ce côté technique de la poésie. Et au fur et à mesure, je me suis aussi rendu compte que j'avais pas besoin de faire une poésie qui ne me ressemble pas forcément, mais qui ressemble aux autres. Parce que je suppose que quand Victor Hugo, il écrivait, il a écrit des choses qui lui ressemblent, des choses de son époque. Et on est très loin d'être de la même époque. Même mes parents ne sont pas de l'époque de Victor Hugo. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui me ressemblait plus. J'avoue que quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de réticence et de peur parce que je me disais, ça ressemble pas trop à ce que les gens y voient quand ils parlent de poésie de manière générale. Donc, qu'est-ce qui me faisait croire que c'est quelque chose que les gens allaient aimer ou que c'était quelque chose que les gens allaient apprécier et tout. Donc, ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, j'écrivais, j'ai commencé à partager mes textes, j'ai commencé à avoir des retours, des gens qui aimaient, des gens qui avaient des avis aussi contraires, des gens qui voulaient que j'améliore certaines choses et tout. Je commençais à avoir des gens qui me demandaient si ça ne me dérangeait pas d'écrire des textes pour eux, soit à l'occasion d'un baptême, de la venue d'un enfant ou d'un mariage et tout ça. Et j'avoue que j'ai aussi pris goût à la chose parce que bon, à côté, ça amenait aussi de l'argent. Donc voilà, tout ce qui amène de l'argent, je pense, suscite notre intérêt forcément. Et donc j'ai fait ça de 2015 jusqu'à 2018, je pense. En 2018, avec des amis, on s'est dit qu'on allait sortir un recueil, ou en tout cas un ouvrage commun. Parce que je pense que c'est également la période où le livre Politisez-vous est sorti. Et on a aussi découvert que c'était possible en fait que plusieurs plumes se mêlent et créent un seul ouvrage. Et nous, on a voulu refaire la même chose, mais avec la poésie. Après, chacun était occupé, on venait tous de commencer à travailler et tout, donc c'était compliqué d'avoir tout le monde. Donc c'est un projet qui n'est jamais vraiment arrivé à bout et tout, mais je regrette rien parce que c'était une belle expérience quand même de chercher au moins à donner vie à ça. Et donc, quand la pandémie a commencé, moi, écrire, c'est un peu ce que je fais quand j'ai du temps libre et que je veux m'occuper. Donc, quand la pandémie a commencé, j'ai vraiment beaucoup commencé à écrire. Donc, j'écrivais des textes qui me parlaient, voilà, texte que la vie de tous les jours m'inspirait et tout ça. Donc, durant la pandémie, je pense qu'à plusieurs reprises, j'ai dû écrire soit pour moi-même ou pour des gens. Et à un moment donné, j'étais en panne d'inspiration. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais relire mes anciens textes parce que c'est une manière aussi pour moi de me rappeler de ce que j'ai déjà fait, de pouvoir m'auto-inspirer et tout. Et en relisant mes anciens textes, je pense que dans l'ordre où je les ai lus, j'ai vu qu'il y avait une suite logique. Et que parfois il y avait des trous, évidemment, mais il y avait une suite quand même, et qu'il y avait une histoire derrière tout ça. Et donc c'est là où je me suis dit, ah mais c'est vraiment, on pourrait en faire quelque chose de beaucoup plus structuré. D'autant plus que la plupart des textes, c'était des choses que les gens n'avaient encore jamais lues. Donc j'ai eu cette petite idée-là dans ma tête, j'en ai parlé autour de moi et tout. J'ai eu des proches qui m'ont encouragé bien sûr et tout. Et du coup j'ai commencé à mettre tout ça sur papier et tout. Donc j'ai structuré mes textes, ceux qui étaient en cours et qui n'étaient pas finis, j'ai pris le temps de mieux les écrire. Il y a certains que j'avais écrits, mais je n'étais pas très content de comment est-ce qu'ils étaient structurés, donc je les ai réécrits et tout. Et à un moment donné, il y avait des vides, il y avait des choses que je voulais dire, mais que je ne voyais pas. Et je me suis rappelé que quelques années en arrière, en 2018, je voulais un projet de recueil commun avec des amis. Je me suis dit, même si ça ne peut pas être un recueil commun, ce que je vais faire, c'est que même si c'est mon recueil, je vais y intégrer d'autres personnes. Parce que moi, la force du nombre, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. J'aime beaucoup l'échange, le partage, le fait que les gens y s'allient pour faire des choses. Et donc, l'idée est partie de là. Et toutes les parties que j'aurais voulu ajouter, je me suis dit non, je ne vais pas les ajouter moi-même. Je vais demander à des gens qui écrivent et dont j'aime la plume d'ajouter du coup. Donc, j'ai contacté, je pense, une dizaine d'amis qui écrivaient. Et je leur ai dit, est-ce que ça te dirait d'écrire un texte qui porte sur ça, ou est-ce que tu as un texte qui porte sur ça que tu voudrais bien que je mette dans mon recueil et tout. Et franchement, je suis très content aussi d'avoir fait ça, parce que ça a donné une autre perspective au recueil. Et je dis toujours que de mes deux recueils, un peu de nous est celui dont je préfère le processus de création, parce que c'était un processus qui était super participatif, qui n'était pas juste moi seul et ma vision des choses, mais qui était aussi, si je veux intégrer le texte des gens, il faut aussi que la vision du recueil reflète la vision qu'eux, ils ont de la vie et tout ça. Donc ça s'est fait comme ça. C'est sorti en 2020 et franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, au début, je m'étais dit, on va sortir, on va juste mettre sur une plateforme où les gens vont télécharger par PDF et tout. Après, j'ai d'autres amis qui m'ont dit « Ah, mais ce serait bien que tu les mettes sur Amazon, sur la Fnac et tout. » Et en voulant mettre ça, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi faire des versions physiques. Donc, on a fait des versions physiques. Au début, moi, j'étais très réticent au fait de faire des versions physiques à Dakar parce que je me disais « Personne ne me connaît, je ne suis pas écrivain qui va acheter. » J'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a beaucoup encouragé et qui m'a dit « Non, au moins 15 ans, une cinquantaine, et si personne n'achète, nous, on achètera tout. » Donc, on est allé sur 50, on a lancé les précommandes. Je pense qu'on a eu 150 précommandes dès le premier jour. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison et qu'il y avait un potentiel derrière. Et franchement, c'était une très belle aventure parce que 2020, j'ai découvert du coup, c'était quoi le monde de l'écrivain, le monde de l'auto-édition et tout ça. Je pense que le premier exemplaire là, je pense qu'aujourd'hui on a dû dépasser les 1000 ventes depuis super longtemps, parce que même avant la première année on était déjà à 600 ventes et depuis les ventes ont continué. Et donc ça s'est fait en 2020, j'étais super content, j'étais en train de revivre tout ça. Et en 2021 du coup, moi je pense que 2020 c'est l'année où la COVID et voilà, comment le monde était à le plus affecter les gens. Mais moi, contrairement, ça ne m'a pas du tout affecté. 2020, c'était plutôt une bonne année pour moi. Franchement, c'était une année qui était calme. À part le fait qu'il y avait la COVID, bah, tout se passait presque bien. Mais c'est 2021, du coup, qui a été moi, mon retour de flamme. C'est 2021 où bah, je pense que tout ce que les gens ont vécu en 2020, moi, je l'ai vécu en 2021. Notamment, même du point de vue professionnel, du point de vue familial et du point de vue amical. Parce qu'en 2021, j'ai perdu l'un de mes meilleurs amis, donc du coup, en fin d'année, il a fait, je pense, 3 mois de coma avant de décéder, du coup, la veille de son 25e anniversaire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est vrai, durant la COVID, on nous disait, oui, les jeunes meurent, ou même nous, de manière générale, on voit des jeunes mourir, mais quand ça vous touche, c'est différent, en fait, c'est pas la même chose, vous le vivez différemment et tout. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté aussi, et qui a fait que j'ai remis beaucoup de choses en question, parce que bah, c'est quelqu'un avec qui on avait des projets, quoi. On se disait l'année prochaine on irait en vacances ici, on se disait chaque année on va à Sali, on va sur la petite côte, on se disait bah, quand toi tu vas te marier, ceci cela, et en fait du jour au lendemain vous vous rendez compte que bah, tous ces projets là en fait c'était juste des projets mais que ça ne verra plus jamais le jour. Et je me suis dit que je voulais rendre hommage à sa mémoire, je voulais pas que ce soit quelqu'un qu'on oublie, parce que moi c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais, et je voulais que même ceux qui n'ont pas eu la chance de le connaître justement puisse se rappeler de lui. Et en même temps je voulais aussi quelque chose qui marque le coup dans la continuité et dans la longévité et qui continue à le faire vivre. Et comme bah, écrire c'est quelque chose que je sais faire un minimum, je me suis dit que j'allais sortir un deuxième recueil, et c'était un deuxième recueil déjà pour lui rendre hommage, mais au-delà pour relater moi mon année 2021, comment elle s'est passée. C'était vraiment une année en dents de scie. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments. Et donc du coup, c'est un peu ce que j'ai décidé également de retracer dans ce deuxième recueil-là, Journey of a Broken Hearted. Et pour moi, le titre, en fait, pour choisir le titre, je pense que ça a été l'une des choses les plus difficiles. Parce qu'au début, j'avais aucune idée de titre. Et un jour, j'ai écouté l'album de la chanteuse nigériane, Tems. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et il y a un de ses albums qui s'appelle For the Broken Hearers. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est ce que je veux. Je veux que ce soit quelque chose qui aille dans ce sens-là, pour que ce soit les gens brisés qui se reconnaissent à travers le recueil. Mais je me suis aussi dit, en fait, ce que je veux, ce n'est pas juste que les gens se reconnaissent parce qu'ils sont brisés. C'est que les gens ils reconnaissent qu'ils sont brisés, que être brisé, c'est normal. C'est quelque chose qui arrive pour une raison ou pour une autre. Mais qu'au-delà de ça, bah, c'est un processus aussi. C'est un processus où on grandit, c'est un processus où on apprend beaucoup de choses. C'est un processus où on guérit aussi, ou pas. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu rajouter le journey, parce que le journey pour moi, c'était un séjour. C'est que pour moi, c'est un séjour où bah, parfois, tu as de bonnes choses qui arrivent, de jours, tu as des choses moins bonnes qui arrivent. Mais voilà, c'est un séjour où on doit garder la tête haute et continuer en fait à faire ce qu'il faut et tout. Donc c'est de là que vient le titre Journey of a Broken Hearted. Après ça, cette fois-ci, j'ai quand même tenu à ce que ce soit quelque chose de très plus personnel que participatif. Et souvent même, je dis que mes textes, j'évite qu'il y ait trop de proximité entre moi et mes textes et tout, parce que je veux que ce soit quelque chose qui soit tellement ouvert que tout un chacun s'y reconnaisse. Mais ce recueil-là en particulier, j'ai quand même voulu y laisser un peu de moi. Je voulais quand même que les gens ressentent cette sincérité-là dans la perte d'un ami, mais également dans tout ce qui a été vécu, même si ce sont des choses qui ne racontent pas textuellement moi ce que j'ai vécu, mais qui sont d'ordre beaucoup plus général. Et donc, je pense que contrairement à un peu de nous, ça a aussi été, je pense, assez, pas douloureux, mais c'était douloureux un peu, je pense, quand même, de sortir Journey of a Broken Hearted. Parce que, en fait, c'est le fait de devoir assumer, et surtout, que la différence avec Un peu de nous, c'est qu'Un peu de nous, c'était des textes qui dataient depuis 2015. Donc, j'ai eu vraiment 5 ans, quoi. C'est des textes qui tenaient sur 5 ans réécrit et remis à l'air du temps pour les sortir. Mais avec Journey of a Broken Hearted, bah, c'était des textes qui dataient du moment. C'était des textes qui dataient de moins d'un an. C'était des choses qui venaient d'arriver il y a quelques semaines, il y a quelques mois et tout. Et tu prends pas forcément du recul par rapport à ça. C'est que j'ai vraiment écrit beaucoup de choses à chaud. Je sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose, mais après, je me disais que entre le fait d'écrire à chaud et le fait d'écrire quand on a du recul sur la situation ou sur ce qu'on vit, il y a une très grande différence. Et je pense que la différence, elle se sent d'ailleurs entre les deux recueils, que ce soit un peu de nous, de Journey of a Broken Hearted. Donc du coup, voilà, c'est un peu ça l'histoire de ce recueil-là. Et du coup, dedans, j'ai commencé par un texte introductif qui est à la mémoire du coup de mon ami décédé. Et dedans, ce que j'ai voulu, c'est réinterroger notre rapport à l'amour, notre rapport aux émotions, ce qu'on pense que les émotions doivent être, ce qu'elles sont réellement. Est-ce que c'est des choses qu'on peut catégoriser? Est-ce que c'est des choses auxquelles on peut donner une définition unanime, une définition à laquelle tout le monde se reconnaît? Ou est-ce que ce sont des choses où, en fonction de ce que nous on a vécu ou en fonction du contexte dans lequel on évolue, justement, ça peut changer en fonction de la personne aussi et de la perspective qu'on a de la chose. Et donc ça a été tout ça, les questions que j'ai voulu me poser. Moi, en fait, souvent quand j'écris, c'est beaucoup aussi des questions. Et à la fin de mes textes, ce que je veux, c'est ouvrir des perspectives pour les gens. Pas forcément dire aux gens, oui, le monde est blanc ou le monde est noir, mais que les gens ils puissent se dire, OK, sur la base de tout ce qui vient d'être dit et de ce que moi-même j'ai vécu, qu'est-ce que je pense du monde? Quelle est la couleur que je pense est la couleur que le monde devrait avoir si on devait choisir une seule couleur aujourd'hui? Et donc, c'est un peu l'histoire derrière ce recueil-là qui, comme je le disais tout à l'heure, aura un an, du coup, dans quelque chose comme 3 semaines, donc le 21 novembre 2022, parce qu'il est sorti le 21 novembre de l'année passée. Je pense qu'il y a une totalité il y a une cinquantaine de textes dedans. Et la plupart des textes sont précédés aussi de citations qui montrent un peu l'idée générale de ce qui va être abordé dans le texte. Parce que c'est des choses auxquelles je tiens beaucoup, à ce que les gens puissent se faire une idée de ce qu'ils vont voir, de ce qu'ils vont lire et de ce qu'ils vont entendre aussi. Et voilà, donc c'est un peu, en gros, l'histoire du recueil. Je ne sais pas si vous avez des questions pour le moment avant qu'on passe à la séance de lecture, ou si vous avez même des retours, des avis, tout ça, n'hésitez vraiment pas, parce que je voudrais vraiment que ce soit quelque chose d'interactif entre vous et moi. Voilà. Donc, pas de questions pour le moment? Ok. Donc, comme je disais tantôt, je vais vous lire le premier texte et on va en lire d'autres et on pourra en discuter longuement. Donc le premier, il s'appelle « Cher ange gardien », donc il est à la page 5 du recueil. Donc, déjà quelques mois que tu es parti, on ne s'y fait toujours pas. Pour se consoler, on se dit que tu plaides nos causes dans l'au-delà. Quelques mois que tu as été arraché à notre affection, les anges nous trouvaient indignes d'une telle bénédiction. On le savait déjà, mais on réalise à quel point ta compagnie est inestimable. Tu es si proche de la perfection, tu avais tout d'une femme. Mais tu es bien réel et tu restes notre Joël, l'homme de la deuxième mi-temps, l'étoile la plus scintillante du ciel. Comme tu peux le voir, ton départ a ressoudé le groupe. J'espère que tu es fier de voir tes soldats ne former qu'une seule troupe. On ne cesse de nous dire de faire notre deuil et de rester fort. On répond avec le sourire pour leur épargner l'envers du décor. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais la routine n'a rien de consolatrice. Mon cœur a certes du vécu, mais ton départ y a laissé la profonde des cicatrices. Je n'ai pas la force de faire semblant que les choses vont mieux. Je gère mieux certains jours que d'autres et je fais du temps mon meilleur allié. J'ai souvent le moral en dents de scie et je sens mon cœur remplir ma poitrine. Des pleurs à en avoir des migraines qu'on ne soigne pas à coup d'aspirine. Tu me manques et j'ai envie de le crier à la face du monde. Ce monde qui t'a arraché à notre affection en une fraction de seconde. Le ciel a pris un coup d'éclat depuis le 21 décembre passé. Je me demande bien quel type de mission urbaine tu es en train d'y mener. Je ferai l'effort de rester fort, il paraît que c'est ce que tu aurais voulu. Ce que je veux, moi, c'est me réveiller et voir que tu n'es jamais parti. Les meilleurs partent avant, mais ce n'était pas ton tour. Donc ouais, ça c'est un peu le texte introductif du coup du recueil. Et c'est un texte qui je pense m'a pris beaucoup de temps à écrire. Parce que je me disais, en fait, je veux le texte parfait pour lui. Mais après, en vrai, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément de texte parfait. C'est des choses que vous écrivez sur le moment. Et après, si les choses évoluent, on les adapte. Mais ça a été un texte qui a quand même pris du temps parce que j'écrivais, j'étais pas content, je me disais ça reflète pas, c'est ce que je pense de lui. Mais je pense qu'il n'y a aucun texte qui reflétera jamais ce qu'on pense vraiment d'une personne. Je pense que ce qu'on pense d'une personne, ça reste beaucoup plus en nous, c'est des souvenirs qu'on chérit, ce sont des choses avec lesquelles on grandit au fil du temps et tout. Et par moments, on trouvera les mots justes pour exprimer quelque chose en particulier, mais on ne peut pas réduire tout ce qu'on a vécu avec quelqu'un et tout ce qu'on pense de quelqu'un à de simples mots, peu importe la force que ces mots-là pourraient avoir. Donc, c'est un peu ça. Et je pense qu'il y a aussi un texte que j'aime en particulier. Je ne sais pas il est à quelle page, mais je pense qu'il est à la fin de l'ouvrage. Et parce que, comme je disais tantôt, moi, mon but, c'était aussi que, malgré tout ce qui peut se passer de mal, qui peut nous décevoir dans la vie, bah, que les gens ils sachent aussi que bah, il y a de l'espoir dans cette vie-là. Et donc, il y a deux textes en particulier que j'ai écrits pour ça. Et le premier, il s'appelle « J'y crois encore ». Il est à la page 53. Donc, il dit « J'y crois encore ». Même si la vie se donne de la peine à me faire lâcher prise, j'y crois encore parce que mine de rien, ça reste le premier commandement du Christ. J'y crois encore même si rien ne présage un meilleur lendemain. J'y crois encore parce que si je me jette dans le vide, j'ose croire qu'on me saisira la main. J'y crois encore même si vos discours sont remplis de fatalité. J'y crois encore parce que mon espoir a la même durée de vie que l'éternité. J'y crois encore même s'il faut encore faire confiance aveuglément. J'y crois encore parce que pour justifier cette folie, je ne serai pas à court d'arguments. J'y crois encore même si jusque-là, les faits vous donnent raison. J'y crois encore parce que l'histoire se diversifie à chaque saison. J'y crois encore même si très souvent je frôle la baisse de foi. J'y crois encore parce qu'on documente facilement nos peines et pas assez nos joies. J'y crois encore même si notre monde manque de spontanéité. J'y crois encore parce qu'à partir de désormais, vous et moi, à tous ces mots, allons remédier. Donc il y a « J'y crois encore » et il y a un deuxième qui est, je pense, le titre. En fait, j'en ai tellement que j'oublie les titres. Je pense que le deuxième, faudra que je m'en rappelle, hein. Mais il ne doit pas bien être loin d'ici. Voilà, donc c'est « Ça ira mieux demain ». Il est aussi court que l'autre, mais pour moi, c'est aussi un texte que… En fait, quand je l'écrivais, ce que je me disais, c'est « Je veux des textes qui seront courts et qui seront faciles à se répéter tous les jours. Se répéter quand, par exemple, on traverse un moment difficile ou quand les choses ne vont pas forcément dans le sens qu'on aurait souhaité ou dans le sens qu'on a imaginé. Et donc, j'y crois encore et ça ira mieux demain. Ce sont les deux textes qui, pour moi, me redonnent espoir, en fait. Donc, ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain parce que demain ne nous est pas promis. Et surtout que je ne t'ai pas encore connu. Ça ira mieux demain parce que c'est dur de faire pire qu'hier. Et qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai déjà expérimenté une petite lueur. Ça ira mieux demain parce que j'ai envie d'y croire. Et si ça n'arrive pas, ce ne sera pas de ma faute à moi. Ça ira mieux demain parce que je ne perds rien à espérer. Et tant que le soleil se lèvera, je recommencerai. Ça ira mieux demain parce que le vent qui souffle me le chuchote à l'oreille. Et je lui fais confiance. J'espère que vous ferez pareil. Et comme je disais tantôt, voilà, pour moi, c'est super important aussi cet aspect-là de ne pas juste rester dans le fatalisme. Pour moi, c'est important de reconnaître ce qu'on vit comme épreuve, comme douleur. C'est important de juste assumer ce qu'on vit, en fait, que ce soit de la joie ou de la peine, et de laisser le temps à notre être et à notre personne de vivre entièrement ces choses-là. Mais je pense que c'est tout aussi important, lorsque les choses commencent à aller mieux, de pouvoir également aller dans ce sens-là, de pouvoir faire des choses qui vont dans ce sens-là et tout. Et c'était pour moi, c'est pour ça que pour moi, dans mes recueils et même dans mes écrits, c'est important, même si je parle de quelque chose qui peut être douloureux ou qui peut avoir été quelque chose qui peine beaucoup les gens, pour moi, c'est super important également qu'il y ait ce moment-là où il y a une lueur d'espoir qu'on redonne. Il y a ce truc de « Ok, je suis dans ça, mais soit demain, ça va aller mieux parce que déjà, j'ai connu mieux, ou demain, ça va aller mieux parce que la vie, elle ne se résume pas qu'à des mauvais moments. Tout comme la vie, elle ne peut pas se résumer qu'à de bons moments, même si on l'aurait aimé. » Et pour moi, c'est vraiment un mix des deux. Et c'est parce qu'il y a de bons moments qu'on vit pleinement les mauvais moments. Et c'est parce qu'il y a de mauvais moments qu'on sait apprécier aussi pleinement les bons moments. Donc pour moi, c'est vraiment une question de dualité entre ces deux choses-là, entre le bien et le mal. Et je pense que c'est ce qui rythme un peu nos vies, c'est ce qui rythme qui nous sommes. Et oui, voilà, de manière générale, je pense que c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur l'ouvrage et tout. J'espère que vous aurez des questions pour qu'on puisse en parler beaucoup plus en profondeur et que, voilà, et que je puisse revenir sur certaines choses que soit vous avez entendues ou sur lesquelles vous voudriez que j'élargisse plus le débat. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou même des avis, ou même des opinions. Hein. Si vous avez juste des avis et des opinions, n'hésitez pas du tout. Et je tiens aussi à dire que je pense que j'ai deux amis du coup, qui sont écrivains aussi et qui sont là avec nous. Donc l'un qui a sorti son livre, c'est quoi encore le titre ? Voilà, Le cœur en spleen. Et j'ai aussi Afan qui, lui, n'a pas encore sorti de recueil, mais on attend son recueil pour bientôt. Et donc, du coup, c'est aussi des gens avec qui vous pourrez discuter et qui sont aussi beaucoup dans l'environnement poétique du Sénégal.
Est-ce que c'est votre première sortie pour la publication de ce livre?
Non, ça c'est pas ma première sortie pour la publication du livre parce qu'il est sorti il y a un an. Et à l'occasion à l'occasion de la sortie justement, on avait fait un événement. Pour un peu de nous, il n'y avait pas eu d'événement de lancement parce que pas que j'y croyais pas, mais je me disais bon. Ok, ça va sortir, au pire, tes amis vont apprécier et ça va s'arrêter là. Mais je pense que j'avais un peu sous-estimé du coup le potentiel qui était derrière. Et donc du coup, pour Journey of a Broken Hearted, on a tenu à faire un événement de lancement qui s'est passé le 28 novembre, donc une semaine juste après la sortie. Et je pense que là par contre, je pense que ça doit être ma troisième sortie en un an. Donc il y a eu l'événement de lancement, il y a eu une séance de lecture du coup qui a été faite quelques mois après. Et là, du coup, là, c'est ma troisième sortie. Et ben, j'espère qu'il y en aura d'autres aussi qui suivront au cours des mois à venir. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, ou des contributions, des avis?
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je ne suis pas nombreux, mais c'est pas grave. Je m'appelle Eden. Je l'ai connu de Jerry un peu pour des questions de littérature aussi. Enfin, je cherchais vraiment à faire de l'auto-édition personnellement. Et j'ai eu 15 personnes qui m'ont recommandé à cette personne. Je savais pas que c'était qui au départ. Et on a commencé à discuter. Il m'a aidé sur certains points. Quand je suis tombé sur le travail de Jerry, avant même qu'on puisse avoir un contact, on va dire, physique, j'attends que je lui ai dit que j'écris un livre, etc. Il dit écoute, tu sais quoi, je te prends un exemplaire et on va parler. C'est super. Donc, par rapport au travail qu'il a fait et surtout Journey of Broken, on a une symbiose. Ça, c'est personnellement, à chaque fois que je tombe sur que ce soit des textes, que ce soit des vidéos personnelles qu'il fait sur Instagram, on se suit mutuellement. Comme il l'a dit, son objectif premier, c'était déjà un peu de décentraliser le côté académique de la chose. Contrairement à lui, je suis plus dans le côté académique. Avec un peu plus de souplesse. Mais Jerry, il y a cette chose qui rajoute. C'est-à-dire qu'on a, plus d'émotions que le français. Quand je parle de français, c'est la littérature proprement dit. Donc c'est ces émotions qui font sa littérature. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu à part entière dans ce qu'il fait. Donc, il ne cherche pas forcément à ressembler à Hugo ou Mozart ou à l'armée, mais il cherche à être lui. Avec les gens qui ont lu les différents textes, notamment le texte introductif qu'il a lu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a une partie où il compare Joël à une femme. Et la simple comparaison d'une personne à une femme montre à quel point l'importance qu'on attend généralement. Une femme n'est pas n'importe qui. Une femme est source de régénération, une femme est source d'apaisement, et encore une femme supporte ce que nous sommes. C'est-à-dire que quand on arrive à un niveau, on appelle quelqu'un, son meilleur ami, et que dans un livre, on en parle une fois. Ça montre un peu la dimension avec laquelle moi, c'est la seule phrase qui, quand j'ai lu le texte, qui m'avait vraiment marqué. C'est là que j'ai compris qu'il y a plus de profondeur qu'on pense. Et c'est vrai, le sentiment qu'il a de toute hauteur-là, j'ai fait quelque chose, t'as l'impression qu'il y a un flop. Mais derrière, le nombre de personnes qui écrivent anonymement pour te dire ce que tu dis, c'est moi. Là, on ne s'en rend pas vraiment compte. Sur le texte qu'il a vraiment lu, sur le texte réel, le texte introductif, au moment qu'il y a de la matière. Ça serait un bon besoin. Qu'est-ce qu'il pense? Mais bon, tout est évident. Je connais que c'est quelqu'un de très fort et de. dire en sens.
Merci. Et donc, merci beaucoup à Eden. Et donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, Eden, il a sorti également un recueil de poèmes qui s'appelle « Cooker en spleen ». Et je pense aussi que c'est un peu pareil. Moi, en fait, particulièrement, je trouve que chaque génération a un combat. C'est aussi de développer des choses qui lui ressemblent, autant que ce soit dans la littérature, dans les arts, dans le milieu de la médecine, des sciences et tout ça. Je pense que chaque génération a un devoir de marquer le coup et de laisser son empreinte, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de poésie, tout le monde pense à la génération des Molières et tout ça, mais je trouve qu'il y a tellement de personnes talentueuses qui sont passées après elles, qui sont tout autant talentueuses, hein, pas pour enlever le mérite des Molières et tout ça, ou de Hugo et tout ça, mais ce que je me dis aussi, c'est que, en fait, ce pourquoi ces générations-là ne sont pas également identifiées comme des générations qui ont apporté grand chose dans la poésie, c'est parce que elles sont un prolongement de ce qui a déjà été fait. Et pour moi, c'est important aussi de marquer une rupture. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes dire « Oui, mais les jeunes, vous ne lisez plus. » Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, il y a Wattpad. Et Wattpad, c'est que des histoires, c'est que de la littérature, et les gens lisent énormément. Je pense que la différence entre Wattpad et les bibliothèques classiques aujourd'hui, ou les librairies classiques, c'est que les jeunes ne se retrouvent pas dans les histoires qui sont dans ces livres-là. Et donc, du coup, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de jeunes auteurs qui écrivent plus des choses qui sont de notre temps, de notre ère, de notre période, de notre époque, et qui ressemblent plus justement à ce que ces jeunes-là vont aller chercher dans ces livres. Parce que on dit toujours que lire, c'est voyager. Mais c'est super dur de voyager quand vous n'avez pas de point de repère, autant dans le temps que dans l'espace. Si par exemple vous êtes en train de lire un livre qui passe, oui, vous pouvez lire des livres fantastiques qui sont des mondes concrets, et ça vous êtes préparé à ça, vous savez que ok, ça c'est quelque chose qui n'a pas du tout existé. Mais quand vous devez lire un livre qui parle du 12e siècle et que la personne fait référence à comment est-ce que les maisons étaient construites au 12e siècle, à comment est-ce que les gens s'habillaient, au vocabulaire des personnes du 12e siècle, vous êtes perdu. Même si vous voulez voyager, ce voyage-là, il sera super difficile pour vous, en fait, à faire. C'est parce que c'est un voyage où vous allez beaucoup vous poser de questions et vous allez passer beaucoup plus de temps à essayer de comprendre ce que la personne, elle, disait que de profiter du voyage. Alors qu'aujourd'hui, si vous lisez un livre, je ne sais pas, de quelqu'un qui est de la même génération que vous, qui parle des choses de votre génération, donc des choses que vous avez connues et des choses que vous pouvez facilement illustrer ou imager, c'est là où le voyage, il a de l'intérêt. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, vous êtes en train de voyager, et ce qui se fait, c'est que même si la personne, elle parle de quelque chose, même si ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu textuellement, par exemple, on prend l'exemple, si vous lisez quelqu'un et qu'à un moment donné, il fait allusion, à la COVID-19, même si ce qu'il raconte de la COVID, ce n'est pas comme ça que vous l'avez vécu, au moins, vous avez un ancrage dans le temps et dans l'espace pour vous dire « Ah oui, mais il veut parler de cette période-là ». Et ça vous permet de voyager, ça vous permet en fait de vous dire « Ok, voilà, je me rappelle ». Ça crée en fait un lien affectif avec ce que la personne elle est en train de dire. Et le souci aujourd'hui, et ce n'est même pas un souci, je pense que la particularité avec les questions d'art, que ce soit la musique, le cinéma, l'écriture et tous ces arts-là, c'est que ce sont des choses aussi avec lesquelles il faut avoir un lien. Parce que c'est ça qui, c'est ce lien-là et cette complicité qu'on a avec ces choses-là, c'est ça qui crée, c'est ça qui crée l'envie de vouloir continuer, de vouloir être plongé dedans. Et si vous n'avez pas ce lien-là ou si ce lien-là il est présent dans aucun aspect de ce que vous lisez, à un moment donné, je pense que vous n'avez pas forcément envie de continuer en fait. Et donc pourquoi c'est pour ça que moi aujourd'hui, au-delà de juste écrire des poèmes qui me ressemblent et qui sont ceux à quoi je m'identifie le plus, que je veux aussi, c'est en fait renverser ce stéréotype-là en fait, qui dit que les jeunes ne lisent pas, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que les jeunes lisent. Après, c'est que les jeunes ne lisent pas ce qu'on attend d'eux qu'ils lisent, parce que ce sont des choses dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Mais dès qu'il y aura une affluence, du coup, de jeunes qui sont en train de faire des choses bien, ils vont lire autant qu'on voudrait qu'ils lisent. Et aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est dommage, c'est que tous les livres qui sont au programme au niveau des différentes écoles, des différents lycées, des différents collèges de nos différents pays, de la zone en tout cas ouest africaine, sont des livres dont la plupart des auteurs ne sont même plus de ce monde. Et quand je dis ne sont plus de ce monde, c'est pas ils nous ont pas quittés il y a 2-3 ans, quoi. C'est des personnes qui nous ont quand même quittés, qui, c'est des personnes que même ces jeunes-là aujourd'hui à qui on fait lire ces ouvrages-là n'ont pas un grand décalage en fait entre eux. Après, je dis pas qu'il faut arrêter de mettre ces livres-là à l'ouvrage, mais je pense que ce serait bien également qu'il y ait un mix des deux. Que par exemple, à un certain, qu'au début, on introduise d'abord des auteurs qui sont plus ou moins contemporains, et qu'au fur et à mesure, on puisse aller chercher maintenant des auteurs qui, voilà, qui se sont inscrits dans l'histoire et qui ont fait des classiques dont on se rappellera toujours. Pour moi, aujourd'hui, Une si longuelette, ça restera un classique, même dans 50 ans, même dans 100 ans et tout. Mais ce serait pas mal aussi qu'à côté d'Une si longuelette, qu'on ait aussi un ouvrage d'un jeune auteur contemporain qu'on puisse également enseigner aux gens. Parce que ce que ça fait, c'est que ça permet aux plus jeunes de rêver. Si on prend le football, par exemple, si vous prenez un jeune qui a quoi, 12 ans, et que vous lui parlez de Pelé en tant que footballeur, oui, ok, il va se rendre compte que Pelé, c'est quelqu'un qui a fait des exploits. Mais ce n'est pas assez pour lui pour pouvoir se projeter et se dire « je veux devenir footballeur » ou « c'est ce type de footballeur que je veux devenir ». Par contre, si vous lui parlez de quelqu'un comme Ronaldinho ou Ronaldo, qui sont encore plus contemporains, ça le rapproche un peu plus. Parce que déjà, Pelé ne jouait pas avec les mêmes équipements que ceux qui jouent actuellement. Pelé ne jouait pas le même type de compétition et ne jouait pas contre les mêmes adversaires. Ronaldinho, Ronaldo, il jouait un peu quand même, il se rapproche un peu plus des réalités que lui, là, il a. Mais si aujourd'hui vous lui parlez, je sais pas, d'un Mbappé, d'un Messi, d'un Neymar, mais c'est là, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose qu'il voit, c'est quelque chose auquel il a assisté. C'est pas, on ne lui raconte pas juste, on ne lui dit pas juste, ah, tu sais, il y a une légende. Et on sait tous que les légendes, à un moment donné, on ne sait pas vraiment ce qui est à 100% vrai, ce qu'on a rajouté, ce qu'on a omis et tout ça. Mais quand c'est quelque chose qui est palpable et qui est quelque chose que la personne, bah, elle l'expérimente elle-même, c'est beaucoup plus simple pour elle de se projeter et de se dire « Ah, en fait, c'est ça que je veux, c'est comme ça que moi aussi je vois les choses et tout. » Donc du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est encore… C'est très important du coup qu'on ait des auteurs qui sont contemporains comme Eden, comme Patterson, comme Afan, comme Gloire Wagnef et comme toutes ces personnes-là. Et je pense que c'est aussi l'une des missions que le Madsen s'est donné en faisant la promotion justement de ces jeunes auteurs-là contemporains, en leur donnant des tribunes de visibilité pour qu'ils puissent parler de leur art, pour qu'ils puissent faire découvrir leur art aux gens aussi. Et je pense que ce sont des initiatives à saluer, à encourager aussi. Et en tout cas, moi, je suis très heureux et très honoré d'avoir été votre intervenant aujourd'hui. Et j'espère que l'aventure qui vient de commencer va aller beaucoup plus loin, que le Madsens va devenir également un carrefour très important dans le domaine de la littérature au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et un peu partout dans le monde aussi.